Salut, ici Bastien Diaz et bienvenue sur La Route 42. C'est le 42e épisode de La Route. Et vous avez compris pourquoi j'ai choisi d'attendre pour retracer l'histoire d'Eliud Kipchoge. Depuis que j'ai lancé La Route, je m'étais dit que si j'atteignais cette barre des 42, l'épisode serait consacré au plus grand marathonien de tous les temps. Et avant de s'intéresser à l'épisode d'aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Spotify vient de lancer son application de live audio. Ça s'appelle Green Room et vous pouvez la télécharger directement dans les stores. Ça tombe bien car, pour les JO, je l'utiliserai pour commenter les courses en live. Vous pourrez alors me rejoindre pour écouter ces courses, mais on pourrait aussi parler en live des exploits qui viendront de se passer et ce sera trop cool. Je vous tiens au courant de tout ça et pour ne rien louper, n'hésitez pas à suivre le tout nouveau compte Instagram de La Route, c'est là-bas que je vous ferai les annonces. Étant qu'on est sur le suivi de compte, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à La Route. Et pour les potos sur Apple, lâchez un petit 5 étoiles si vous kiffez le boulot réalisé sur le podcast. Allez, on perd pas de temps pour ce nouvel épisode qui avait tellement de choses à raconter sur Eliud Kipchoge, le plus grand marathonien de tous les temps. C'est parti donc pour cet épisode d'En route vers Eliud Kipchoge, Breaking 2.
On a accéléré de 4 secondes un tout petit peu au kilomètre.
Ouais. Eliud Kipchoge qui. Petit signe sur le visage. Ouais. Alors, est-ce que c'est pas bon signe pour lui? Là, il n'est pas aux avant-postes du groupe. Il traîne un petit peu, entre guillemets, bien évidemment. Il faut avoir avec un plan un peu plus large pour voir s'il y a éventuellement un petit écart qui a été fait. Mais pour l'instant, Eliud Kipchoge n'est pas du tout aux avant-postes et c'est bien Shura Kitata.
Les autres, hein. Il faut qu'ils en profitent.
Hein. Oui.
Si à un moment donné où Kitata les Éthiopiens doivent se montrer, c'est maintenant. Hein.
Kitata et Lema, les Éthiopiens là, qui sont aux avant-postes.
Ils lui font mal.
Et oui, Eliud Kipchoge n'est pas bien. Attention, là... attention, il y a un écart qui se fait, un tout petit écart. Kipchoge est en avant-dernière position de ce groupe. Et Kitata qui accélère.
Il est à la rupture là.
Ah là là,
ça craque.
Ça craque. Eliud Kipchoge est en train de craquer, messieurs. On a passé le 37e kilomètre. Et ça devient compliqué pour Eliud Kipchoge. Attention, un écart vient de se faire. Un écart vient de se faire.
S'ils en profitent, les Éthiopiens, je pense que ça va être. C'est plié. C'est plié. Il arrivera.
On est le 4 octobre 2020 à Londres. Les athlètes courent autour d'une piste de 2,15 km créée spécialement pour l'occasion autour de St James Park. Le marathon au parcours normalement mythique a dû être modifié en vue du contexte autour du Covid. Et ce 4 octobre 2020, c'est un coup de tonnerre qui vient de retentir. Eliud Kipchoge, le grand Eliud, le roi du marathon mondial, est en train de perdre un marathon pour la première fois depuis 2013. On le voit en train de se faire distancer par les autres coureurs, et c'est une image que beaucoup n'avaient jamais vue. Sur un sport où on est plus perdant que gagnant, Eliud a réussi à inverser la tendance sur la distance la plus emblématique pour un coureur sur route, le marathon. Et surtout, Eliud est devenu une rockstar interplanétaire. Il a dépassé le stade d'un simple champion de course à pied. Eliud, c'est celui qui casse toutes les barrières qu'on lui a fixées. Et c'est sûrement la première fois que ça arrive. Eliud a mis en lumière ce sport, son sport, la course à pied. Mais ce 4 octobre pluvieux, Eliud est redevenu un humain. Je ne vais pas vous cacher que ça a été hyper difficile de construire cet épisode. Et pour tout vous dire, quand je vous en parle, j'hésite encore sur la manière de vous le présenter. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'il semblerait que tout ait été dit sur Eliud. On le connaît tous. Enfin, c'est ce que je pensais. Ce qui m'intéresse avec l'histoire d'Eliud, c'est bien entendu de comprendre comment il a atteint ce niveau stratosphérique. Faites le test et allez dans la rue. Demandez à n'importe quelle personne si elle a entendu parler d'Eliud Kipchoge. Si le nom ne leur dit peut-être rien, le fait qu'un homme ait couru sous les 2 heures, ça leur ravivera peut-être la mémoire. Mais avant tout ça, je souhaite aussi vous montrer que, avant de connaître la lumière et la réussite sur marathon, Eliud a lui aussi connu des échecs qui n'ont pas été faciles à encaisser. Alors, comment Eliud a commencé sa carrière à haut niveau? Tout a débuté un soir à Saint-Denis.
Alors la seule solution peut-être va résider dans une course d'équipe des Éthiopiens, c'est ce qu'ils sont en train de faire d'ailleurs Patrick, c'est-à-dire essayer d'assassiner un petit peu, entre guillemets, on est d'accord, hein, Hicham El-Guirouj qui est en troisième position, c'est-à-dire de faire une course très très rapide, parce que Hicham effectivement il a fait 12-52, mais quand il dit le 1500 c'est un bébé qui aurait grandi avec moi, que je connais parfaitement, alors que je peins moi-même, alors que le 5000 je continue d'apprendre, je me sens un petit peu comme un gosse qui vient de passer son permis et qui se lance en ville sans savoir s'il ne va pas toucher les autres voitures. Voilà ce qu'il dit du 5000 mètres, Hicham El-Guirouj.
On en a parlé plusieurs fois de ce championnat du monde lors des épisodes d'En route vers. 2003, Saint-Denis. Rappelez-vous, le premier épisode de La route sur Hicham El-Guirouj. C'est une des courses qui va faire la légende de l'athlétisme. Hicham a remporté le 1500 mètres juste devant Mehdi Bala quelques jours plus tôt. Et il a décidé de se placer sur le 5000 mètres pour préparer un gros coup pour les Jeux qui auront lieu un an plus tard, le doublé 1500-5000. C'est le grand favori de la course, même si un petit nouveau tout droit venu d'Éthiopie commence à montrer le bout de son nez, Kenenisa Bekele. Il est destiné à prendre la relève d'Haïlé Gebrselassie, mais on ne sait pas s'il est assez fort pour détrôner la légende marocaine. La course s'élance, on fait les 4600 mètres, à une bonne allure, et rien ne se passe comme prévu.
Hicham El-Guirouj est parti. Hicham est parti, est-ce que Kenenisa va réagir? Ça va être dur, Hicham est là, toujours attention, ça revient derrière. Attention, avec Chebi. Non, c'est Kipchoge, Kipchoge, Kenenisa.
Ça va être dur, Kenenisa.
Et Kenenisa,
oh, Hicham.
Hicham qui résiste. Et c'est Kipchoge, Kipchoge ou Hicham. Attends. C'est énorme, c'est Kipchoge, non, Hicham qui relance. Oh, c'est extraordinaire, extraordinaire, Kipchoge. Kipchoge, Eliud Kipchoge, pas Hicham El-Guirouj. Hicham El-Guirouj a failli réussir son challenge insensé. Et ce n'est pas Kenenisa Bekele, le fils de Haïlé, qui lui a volé la vedette. Mais cet Éthiopien Bernard, qui a tout juste quoi, 18 ans, Eliud Kipchoge.
Patrick, c'est la première fois. Allez, pour voir les choses calmement, on va poser le tableau là maintenant. C'est la première fois qui, tant hier chez les dames sur 5000 mètres, qu'aujourd'hui chez les garçons, que deux juniors.
Tout le monde est sur le cul. Qui est ce gars qui vient de faire la nique à un des plus grands coureurs de tous les temps? Et quoi? Il a 18 ans, un Kenyan? Mais qui est-ce? Ce mec, vous l'avez deviné et surtout entendu, c'est Eliud Kipchoge. Et voici comment il arrive sur le devant de la scène de l'athlétisme mondial, il devient champion du monde du 5000 mètres, sans que personne s'y attende. Et toujours, et c'est important, un petit point chrono. Cette course, qui a lieu pour le titre mondial, se court en 12 minutes 52 secondes, soit du 2 minutes 34 par kilomètre, ou du 23 km/h. Yeehaw ! Quand à l'époque, le record est détenu par Haïlé Gebrselassie, en 12 minutes et 39 secondes, ça trace. Eliud a commencé l'athlé 2 ans avant ce titre, à 16 ans donc, et comme souvent, il a participé pour la première fois à un cross dans son village et a fait une perf plutôt intéressante. Et sur ce type de course, il y a certes des spectateurs lambda comme vous et moi qui viennent admirer les coureurs, mais il y a aussi les recruteurs qui sont à la recherche de leur nouvelle pépite. Et Eliud, après sa perf, vient de taper dans l'œil d'un gars plutôt connu au Kenya, Patrick Sang. Patrick, en quelques mots, c'est le vice-champion olympique du 3000 mètres steeple en 92 à Barcelone, et depuis, Patrick est devenu coach et il est à la recherche d'athlètes qu'il pourra emmener sur le toit de l'athlétisme mondial. Et un de ses choix donc se porte sur cet ado à qui il manque une dent, mais qui a l'air de bien se débrouiller en course à pied. Après lui avoir filé un plan d'entraînement qui sera suivi à la lettre par l'élève, les deux nouveaux partenaires s'envolent pour Lausanne, où Eliud sera sacré champion du monde junior de cross. Donc résumons. En l'espace de 2 ans, Eliud a commencé la course à pied et c'est devenu un véritable sport pour lui. Et en 2 ans, il est devenu champion du monde junior de cross et champion du monde du 5000 mètres devant deux gars qui ont pour prénom Hicham et Kenenisa. Bien. Il fait chaud, pensez à vous hydrater et à prendre une éponge pour vous en mettre un peu sur la nuque. Je pense qu'on va en avoir besoin pendant cet épisode. Et en plus de ça, on va faire rapide dessus car autrement l'épisode va durer des plombes. Eliud a bien entendu dû se qualifier à ces deux championnats. Je crois qu'il les a emportés, en tout cas il était super bien placé. Et quand on connaît le niveau de l'athlète kényan, autant vous dire qu'il fait déjà partie du gratin mondial alors qu'il n'était même pas majeur. Et avec la date de son premier titre chez les seniors, août 2003, vous pouvez déjà vous rendre compte de ce que je veux montrer dans cet épisode, la longévité. On est aujourd'hui en 2021, son premier titre date de 2003 donc, Eliud court depuis 18 ans au plus haut niveau. Déjà qu'en sport pro tout court, ça serait un exploit. En course à pied, ça l'est encore plus pour moi. Quand on sait comment ce sport est ingrat, que ce sport est dur autant pour l'esprit que pour le corps, 18 ans au plus haut niveau, c'est stratosphérique. Voilà une des raisons pour laquelle Eliud est connu. On l'a vu plusieurs fois, voire plein de fois, sur des courses au plus haut niveau mondial. Et en plus de ça, il n'était pas tout seul. Pour ses premières années à courir autour d'une piste, et notamment sur le 5000 mètres, il était accompagné par deux autres grands que sont Bekele et El Guerrouj, et les trois spécimens rares se retrouvent un an après à Athènes pour les JO, mais le Marocain était intouchable.
Kipchoge va passer en tête à la cloche devant Kenenisa en troisième position pour l'instant. C'est Gebremariam, Hicham El Guerrouj toujours pour l'instant tapis à la corde. Hicham qui n'a toujours pas déclenché l'attaque. Et c'est Kipchoge qui essaye maintenant de partir un peu vite. Mais Kenenisa s'est retourné pour voir où était Hicham. Les deux hommes se surveillent, qui jouent au chat la souris tous les deux là. Oui. Hicham est juste derrière Bekele. Bekele qui commence maintenant à lancer son sprint. Hicham El Guerrouj va essayer tout de suite de répondre. Kipchoge refuse de se laisser passer. Ça y est, il est dépassé. Kenenisa pour l'instant est lancé comme une fusée. Hicham El Guerrouj va prendre la suite. Le combat va avoir lieu, le duel va avoir lieu entre Kenenisa qui est maintenant à pleine vitesse. Hicham El Guerrouj est rentré du virage. Attention à Kipchoge à la corde. Oh, c'est superbe, c'est superbe. Kenenisa résiste. Hicham est gros. Hicham est très gros.
Vous savez, c'est logique. Hein. Au vu de la course, il n'y a rien à dire. Oh, je crois qu'il y a une grosse erreur de la part de Bekele.
Comme le disent les commentateurs, que ça soit Bekele ou Kipchoge, les deux ont fait une erreur de stratégie. En effet, l'habitude des Kenyans ou des Éthiopiens sur ces courses est d'asphyxier la concurrence en courant à des rythmes très élevés durant la course, ce qui fatigue tout le peloton pour qu'ensuite, dans les derniers mètres, ils soient les meilleurs et que personne d'autre puisse venir accélérer car ils sont trop fatigués. Sauf que pour cette course, il y a une erreur donc. Que ça soit Kipchoge ou Bekele, les deux vont mener le train, mais à un rythme qui n'est pas violent pour eux. Pour vous dire, les athlètes passent le 4600 mètres en 13 minutes 05. Rappelez-vous, la course en 2003, avec ce temps, 13 minutes 05, ils avaient déjà fini la course 10 secondes avant, alors que là, il leur reste encore 400 mètres à parcourir. Et ça, c'est du pain béni pour un coureur de 1500 mètres comme Hicham El Guerrouj, car Hicham les explose sur des efforts courts et violents, et ça n'a pas loupé. On dira, erreur de jeunesse. Car ils ont beau ne pas avoir de rictus sur leur visage quand ils courent, ça reste leur première finale olympique, à Eliud et à Kenenisa. Et même si c'est les meilleurs coureurs, ou du moins ils sont destinés à l'être, c'est pas forcément évident, même si on s'appelle donc Kipchoge ou Bekele, de courir devant 80 000 spectateurs quand on a 19 ans. Et je trouve que ça, on l'oublie un tout petit peu trop. Bref, 19 ans, champion du monde sur 5000 mètres en 2003, médaille de bronze aux JO en 2004. Et en gros, vous l'avez compris, quand tu fais partie du gratin mondial de la course à pied et que tu cours sur des distances comme le 5000 mètres, tu as deux rendez-vous, les mondiaux et les JO. Les mondiaux, c'est tous les deux ans et les JO, tous les quatre ans, bien entendu. Alors entre-temps, tu bosses, tu vas toucher quelques chèques en Diamond League et autres, mais en tête, tu n'as que ces deux courses. Et c'est aussi pour ça que c'est ingrat la course à pied. 130 km semaine, pour te la mettre véritablement que 13 minutes tous les deux ans. Putain, pensez à ça quand même. 13 minutes, le 5 km. 7 10 minutes, plus 3 minutes. Tout juste un match FIFA. Et eux, ils ont avalé la distance qu'il y a entre chez moi et le boulot, lourd. Enfin bref, on est en 2005, direction Helsinki et rebelote. C'est la bataille Kipchoge Bekele.
C'est son frère Tariku Bekele qui va essayer de relever, qui va essayer d'amener une médaille supplémentaire dans la famille, car Kenenisa Bekele, pour service rendu à la nation, a obtenu le droit de ne pas courir ce 5000 mètres. Il estimait qu'il était un peu fatigué et ma foi, on peut le comprendre Bernard, mais les Éthiopiens ont quand même pas mal...
Sauf que, vous venez de l'entendre, ça n'est pas Kenenisa qui est présent sur le 5000 mètres, mais bien son frère, Tariku. Et pour la première fois depuis plusieurs années, cette course est hyper ouverte et on ne sait pas qui peut la gagner. Parce que, même si Kipchoge fait office de favori, finalement il a toujours été dans l'ombre de l'Éthiopien. Il faut bien se rendre compte du contexte de l'époque. Eliud Kipchoge n'est pas celui d'aujourd'hui. Eliud était, de nos yeux d'Européens s'intéressant à l'athlé, qu'un énième Kenyan qui gagne des titres. Pour vous dire, dans les présentations des coureurs, on parle toujours de Kipchoge, le Kenyan. Alors qu'aujourd'hui, rien qu'en 10 ans Eliud, les puristes sauront de qui vous parlez. Et je fais le pari que dans les prochaines années, il y en a qui vont appeler leur fils comme ça. Alors que Bekele, c'est la relève d'Haile Gebrselassie, l'énorme champion éthiopien. On avait découvert ensemble son histoire sur la route. Haile est un des plus grands coureurs de tous les temps, mais il a en plus cette aura qui fait qu'un sportif de haut niveau peut avoir un retentissement interplanétaire sur d'autres sujets que le sport. Kenenisa, c'est la relève donc, et même s'il est moins médiatique qu'Haile, il gagne tellement de choses que ça reste le numéro 1 à l'époque. Et Eliud est dans son ombre. Et l'ombre, Eliud va presque tout le temps y être. 2005, à Helsinki donc.
Oh, ça va être très très chaud, d'autant qu'il y a Benjamin Libaud. Voilà Benjamin Libaud qui essaye de faire une Pascal Thiebaud en prenant la petite porte. Mais c'est Siné qui relance maintenant l'Éthiopien Motram derrière.
Oh, Motram, ça serait la grosse cote, Patrick.
Non, non, il va être court, Motram, c'est fini. Siné, l'Éthiopien qui va essayer d'aller jusqu'au bout, mais Kipchoge est lancé à sa poursuite, le champion du monde de Paris. Les Kenyans qui veulent croquer Siné, vont-ils y arriver? C'est Limo, je crois, qui va passer.
Oh, si c'est lui, ça super.
Et ouais, c'est lui, Siné joue.
C'est peut-être son coq, non?
Ou peut-être son coq, oui, son coq. C'était compliqué.
2007, à Osaka. Au JO de Pékin.
C'est difficile pour Edwinson qui est en train de se faire distancer. Il n'y a plus que Bekele et Kipchoge. Est-ce que Kipchoge va pouvoir suivre le rythme de Bekele? Non, Bekele est en train de s'envoler pour l'instant.
Faut pas qu'il se retourne, Bekele. Il est fort, il faut qu'il assure.
Kenenisa Bekele, 28 ans après Mirut Sifter.
Allez,
il est parti pour le doublé, 10 000, 5 000. Bekele, personne ne pourra l'arrêter. Il est parti, Bekele, avec sa foulée explosive. Regardez cette fréquence, cette cadence au niveau gestuel, Stéphane, c'est impressionnant.
Et oui,
le rythme qu'il arrive à mettre.
Et oui, il est tonique hein, sur ses appuis, c'est un vrai sprinter. Faut pas se retourner, mon petit gars. Il faut y aller. Et oui, il le sait, regardez.
La qualité de pied de Kenenisa Bekele qui a maintenant allez, 20 mètres d'avance, qui va aller chercher une médaille d'or olympique sur 5000 mètres.
13-05-59, le record olympique de Saïd Awita.
Ah bah ça, il est mort. Hein,
ah oui, il est mort depuis 53, longtemps. Là. Il est mort depuis longtemps, le record 50. D'Awita.
Ah, ça va.
Ça va se courir en moins de 13 minutes. En moins de 13 minutes pour Bekele, c'est fabuleux. Bekele à l'arrivée en 12-57-82. La médaille d'argent pour Kipchoge, complètement étouffé dans ce dernier 400.
Et le bronze olympique quand même. Hein.
Et le bronze pour Edwin.
2009, à Berlin.
Kenenisa Bekele kicks hard from the front. Lagarde is still there on the inside. Kipchoge looks as though he hasn't got too much left. Kipsiro of Uganda, then Kualia. Lagarde, the big threat. Kipsiro coming on the outside. Mo Farah just starting to disappear. But here we are, the big battle for the title. The defending champion, Lagarde. 1500 meter speed against 10,000 meter strength. Who's going to win this? Right to the line. Bekele's going to get it. Strength outlasts the speed. Bekele is the double champion. What a race from the two of them. Brilliant, brilliant, brilliant. I thought just for a moment that Lagat had the pace, but it came down to strength.
Et 2011, à Daegu.
He's up there, Coetzee's there, Lagat back in fifth place. Deborah Meskel going for gold, but Mo Farah on the inside is holding him off at the moment. 57 second lap. Less than 200 metres to go. What a race we have. Merger in third place. And here comes Lagat. Mo into the last 100 metres. Farah's going for gold. Gabriel Meskel can't respond. Here comes Lagat. Lagat's coming all the time. He's closing with every stride. But Farah's going to win it. And Mo Farah takes the gold. What a performance from Mo Farah. He kisses the ground in celebration.
Quand ce n'est pas Bekele, c'est Lagat. Quand ce n'est pas Lagat, c'est Mo Farah. Et en fait, quand on prend un peu de recul sur les titres remportés par Eliud sur 5000 mètres, c'est hyper intéressant. En effet, son dernier titre date de 2003 et Saint-Denis. On est en 2011, ça fait 8 ans qu'Eliud n'a pas gagné de grandes compétitions. Remis dans le contexte actuel, c'est hyper bizarre de se dire qu'Eliud n'était pas un vainqueur. Quand on regarde les courses, et notamment les dernières, et même face à Mo Farah, qui n'a d'ailleurs pas la plus grosse giclette du peloton, surtout quand on compare un mec comme Bekele, Eliud n'y arrive pas. Et en 2011, c'est sûr, le 5000 mètres, c'est plus pour lui. Allez voir ces images que je vous mets en description, parce que ça nous rappelle à tous que, pour réussir, faut galérer, se prendre des murs dans la tronche. Et que le plus important, c'est de se relever. Il faut bien, encore une fois, se rendre compte qu'à l'époque, Eliud est un excellent coureur, un des meilleurs du monde, il est reconnu par les experts, mais par exemple en France, ça reste, encore une fois, Eliud Kipchoge, le Kenyan. C'est toujours comme ça qu'on l'appelle, Eliud Kipchoge, le Kenyan. Il est largement moins connu que Bekele, comme on l'a vu, mais même Lagat ou Mo Farah sont pour moi plus connus que lui. Et je suis sûr donc que si Kipchoge arrête l'athlète à cet instant, personne, en tout cas le commun des mortels, ne s'en souvient, c'est certain. Pour autant, quand on s'intéresse à Eliud, on comprend vite que lâcher l'affaire, c'est pas la politique de la maison. Et finalement, il va presque rien changer. C'est-à-dire qu'il garde toujours le même coach, Patrick Sang, il reste toujours dans le même centre d'entraînement et sa petite chambre de 9 mètres carrés, on en reparlera, il mange toujours la même chose. Même son objectif n'a pas changé, être le meilleur de tous. Mais ce qui va changer, c'est la distance. Comme on l'a vu, fini le 5000 mètres, c'est plus pour lui. Bienvenue sur le marathon. 2 ans de transition. Sa dernière grosse course date de 2011 à Daegu donc. Son premier marathon aura lieu en 2013 à Hambourg. 2h05 et 30 secondes, record de l'épreuve encore aujourd'hui, pas dégueu pour un début. Et 6 mois plus tard, premier gros marathon avec son entrée en lice à Berlin. Face à lui, un gros morceau, Wilson Kipsang. Sur une course où les deux compères kényans vont se tirer la bourre jusqu'au bout, Kipsang sera le plus fort. Et pas n'importe quel plus fort. Le plus fort du monde, Wilson battra le record du monde de l'époque en 2h03 et 23 secondes. Eliud lui terminera 42 secondes derrière lui, soit une seconde par kilomètre de concédé. Pas dégueu pour un second marathon. Et ce rythme de 2 marathons par an, un tous les 6 mois, Eliud va le garder tout le temps. Et tous les 6 mois, c'est tous les 6 mois. Hein. C'est-à-dire que c'est un marathon en avril et un marathon en octobre. C'est carré, militaire, presque bas du front. Mais c'est ça qui fait qu'il va marcher. Avril, octobre, rien d'autre. Donc 6 mois après Berlin, Rotterdam, 2h05 et 0 secondes. 6 mois après, Chicago, 2h04, 11 secondes. En 2014, soit 1 an après son choix d'aller sur marathon, Eliud sait, 4 marathons. 3 victoires, 1 seconde place, pas dégueu. Cette première année ressemble presque à un test pour Eliud, car après, tout est en marche pour rentrer dans la légende avec 2 objectifs qu'il s'est fixés, les JO et le record du monde. Pourquoi je dis que c'est un test? Parce qu'après cette première année où il a couru 4 marathons différents, il ne va plus qu'en sélectionner 2. Londres en avril et Berlin en octobre, aucun autre. Il sait que ce sont sur ces deux parcours que les records tombent le plus souvent. Alors pourquoi aller s'emmerder et aller courir autre part ? Eliud est un maître de l'optimisation, un maître du moindre effort. Comme je dis souvent, être feignant est une qualité, car on essaye toujours d'optimiser. Et optimiser, ça il sait le faire. Il suffit de regarder la manière dont il court, je vais pas en faire des caisses, c'est parfait, et je pense que ça suffit. C'est parfait, c'est parfait. Rien d'autre, je suis désolé, c'est parfait. 2 heures, 21 km/h, il n'y a même pas un semblant de petit doigt de pied qui essaye de se faire la malle, c'est parfait. C'est tellement parfait qu'il va jusqu'à se mentir à lui-même pour rester parfait. Oui, se mentir à soi-même. Vous voyez de quoi je parle ? Mais si, vous savez. Son sourire. Eliud, au fur et à mesure que la course passe, se met à sourire. Alors quand, en 2014, au marathon de Chicago, il largue Kipsang, alors détenteur du record du monde en souriant, les commentateurs prennent ça presque pour un manque de respect. Mais ça n'est pas du tout ça. En fait, Eliud a tout prévu. C'est Maître Yoda. Quand il sourit, il envoie un message à son cerveau et donc à son corps que tout va bien. En fait, quand il sourit, c'est qu'il est dans le dur et que l'effort est encore plus violent. Mais son corps s'en rend moins compte car Eliud lui envoie le message que tout va bien. C'est comme quand vous avez vu pour la première fois Le Seigneur des Anneaux au ciné et que vous aviez 10 ans et que quand les Uruk-hai sortaient de leur œuf, votre père vous disait « Tout va bien ». Ben là, c'est pareil. Alors la prochaine fois que vous souffrez, souriez, vous verrez que tout ira mieux. 2015 donc, Londres, première victoire en Angleterre en 2h04 et 42 secondes, 5 secondes seulement devant son rival Kipsang. 6 mois plus tard, Berlin, 2h04, tout pile. On est en 2016, avril, Londres, 2h03 et 5 secondes. En l'espace de 2 ans, où il avait couru à Chicago en 2h05 tout pile, il vient de gagner 2 minutes. À ce niveau, c'est hyper balèze, et même si je pense que ça ne veut rien dire de comparer deux parcours différents, c'est quand même hyper intéressant comme stat. Et cette année 2016 est hyper intéressante également, car c'est l'année des Jeux. Et on l'a vu un peu plus tôt, les Jeux sont un de ses objectifs majeurs. Et on commence à le comprendre sur la route à travers les différentes histoires, les Jeux, il n'y a pas mieux pour un athlète de course à pied. Et d'autant plus que sur marathon, et ça m'a vraiment étonné, il n'y a qu'un seul Kenyan qui a gagné cette distance. C'était en 2008 avec Samuel Wanjiru. Autant vous dire qu'Eliud commence à entrer dans les têtes des gens avec toutes ses victoires sur marathon. À date, on est à 6 victoires sur 7 marathons courus. Mais les JO, c'est être sur le toit du monde. D'autant plus que c'est une course complètement différente, où sur les courses qui se passent chaque année, comme à Berlin ou à Londres, il y a des lièvres qui doivent respecter une certaine allure, pour souvent aller battre les records du monde visés. Ici, à Rio, c'est chacun pour soi. Pas de lièvre, tout le monde joue la gagne pour aller chercher l'or olympique. Encore une fois, ça n'est pas juste des gens qui courent. Sur cette course, il y aura beaucoup plus de tactique que par ailleurs. Mais Eliud est trop fort, victoire à nouveau, facilement, tout en gestion, tout en optimisation. Il finit seul, sous la pluie, à Rio, et est champion olympique.
Finit très très rapidement la Kipchoge, avec cette ligne d'arrivée qui va l'accueillir en héros, en vainqueur. Regardez encore cette superbe allure, vraiment, après 42 km de course. Et là-bas, dans le fond, Lilesa, l'Éthiopien, et Galen Rupp qui donne tout ce qu'il a pour essayer d'aller chercher la médaille d'argent. Médaille d'or, en tout cas, pour Eliud Kipchoge. On était parti sur les bases de 2h12 au semi. On termine sur un 2h08.44 qui témoigne de la vitesse à laquelle Kipchoge a bouclé les derniers 21 km. Et monsieur le réalisateur, merci d'aller chercher...
Encore une fois, tout est optimisation. Breaking 2. Eliud n'est plus un coureur, ça devient un extraterrestre. Il n'est plus de cette planète. C'est Yugi qui invoque le puzzle du millénium, il n'y en a qu'un. On n'est presque plus sur une compétition de course à pied. D'un gars qui court pour atteindre la ligne d'arrivée le plus rapidement possible. C'est toujours l'objectif, bien entendu, mais on rentre plus dans des aspects mécaniques comme de la Formule 1 que de l'humain. Breaking 2. Être le premier humain à courir un marathon sous les 2 heures. 2 minutes 50 par kilomètre de moyenne. Quand j'ai écrit ces lignes, même si je connais cette course par cœur, je suis resté bloqué sur ce 2 minutes 50 par kilomètre. Fermez les yeux et imaginez votre corps aller à cette vitesse. 21,1 km/h. Rien que pendant 30 secondes. Quand on voit ça sur la montre, c'est presque prodigieux. Je pense aussi à ceux qui n'ont jamais vu ça. Et je crois même que je dois en faire partie. Eliud, lui, va devoir courir à cette vitesse pendant 2 heures. Et vous avez entendu son temps le plus rapide. 2h03 et 05 secondes. 3 minutes de gagner à ce niveau, c'est énorme. C'est stratosphérique, c'est quasi impossible. Alors bien sûr, si ce record est réalisé, il ne sera pas homologué, en effet. Pour qu'un record le soit, il ne faut pas qu'il y ait de relais de lièvre. C'est-à-dire que pour Breaking 2, Eliud va recevoir de l'aide de lièvres différents tout au long de la course. Aujourd'hui, c'est la condition sine qua non pour aller chercher une performance comme il se l'est fixé. Et bien entendu, faut parler des chaussures, ces satanées chaussures dont tout le monde parle aujourd'hui. Ça vient de là, optimisation. Eliud, ses chaussures et ses potes, les lièvres, partent pour 2 heures autour d'un circuit de F1 à Monza, en Italie, pour tenter ce que l'on ne pensait même pas pouvoir être réalisé par un humain. Et c'est passé si près.
Kipchoge, Kipchoge. With the Pacers still encouraging him to dig deep. And he's trying to sprint here, which is incredible.
You can see him go to his arms, pulling him up higher. I call him the sprint hands. This is as much of a sprint as anything right here that you'll see on the track.
An extraordinary effort.
He still looks so incredible. I can't even fathom right now. And holding the finish line tape is Joan Benoit-Samuelson and Allison Felix.
Both of them barrier breakers in their own right.
Yes.
And there's the smile.
And he's still jogging.
Presque. 2 heures et 25 secondes. Il lui manque 26 secondes pour casser cette barrière. Mais l'important n'est presque pas là. Nike, qui a organisé cet événement de A à Z, est ravi. Cette course représente plusieurs années de boulot, mais il ne pensait pas être aussi près du but dès la première tentative. En gros, ce que dit cette course, c'est que oui, Eliud était le bon choix pour cette expérience et que oui, Eliud va le faire dans les prochaines années, courir sous les 2 heures. Il y en a qui aiment ce type d'expérience, d'autres qui trouvent que ça n'est plus du tout de la course à pied. Perso, je pense que ça permet à un sport d'émerger encore plus. Donc si ce type d'événement peut faire exploser la course à pied, tant mieux. En France, comment on l'a vu et comment je l'ai vu en faisant ces recherches, c'est que même le monde, qui ne parle pas trop course à pied et marathon sur son journal, a parlé de cette expérience et a fait un énorme papier là-dessus. Ça veut tout dire. Et quand on voit le nombre de Next au pied du commun des mortels, c'est que le coup marketing a parfaitement fonctionné. Mais plus j'y réfléchis et plus je kiffe bien en fait. Cette barre des 2 heures dans les livres scientifiques aurait pu être battue aux alentours des années 2060. C'est ce qui était prévu dans 50 ans. Eliud a donc 50 ans d'avance sur la science et je trouve ça plutôt drôle. Mais malgré tout, même si les résultats sont hyper encourageants, Eliud n'a pas cassé la barrière des 2 heures. Alors dans un coin de sa tête et avec son équipementier, il prépare la version 2 pour cette fois-ci tout casser. Entre-temps, Eliud n'oublie pas son objectif, non encore atteint, le record du monde officiel. Fin septembre 2017, Berlin, 2h03 et 32 secondes. 6 mois plus tard, Londres, 2h04, 17 secondes. 6 mois plus tard, Berlin, 2h01 et 39 secondes. Boum, c'est fait. Record pulvérisé de 1 minute 18 pour aller le chercher celui-là. Va falloir se lever tôt. Et vous pouvez découvrir toute l'histoire de cette course sur l'épisode d'En route vert consacré au marathon de Berlin 2018. Donc, récap sur les marathons d'Eliud parce qu'on a dit pas mal de choses. 2018, 11 marathons courus, 10 remportés. On est sur 9 victoires d'affilée. Et encore une fois, la course à pied est pour moi un sport où on perd plus qu'on ne gagne, surtout le marathon. Et une défaillance peut arriver à n'importe quel moment, même pour Eliud. Alors 9 victoires d'affilée, même au foot, on dirait que c'est une belle série. 9 victoires d'affilée, ça représente 5 ans sans perdre. C'est gigantesque, jamais fait, d'après ce que j'ai vu. Et désormais, tout le monde se souviendra d'Eliud. Breaking 2, 2017, avait laissé de beaux présages, mais ça n'était pas terminé. Tous les paramètres qui avaient gêné Eliud lors de la première tentative ont été corrigés. On ne court plus sur un circuit, mais en ville. Ça sera Vienne et une boucle de 2 km qui sera effectuée un petit peu plus que 20 fois. Les lièvres, il n'y en aura pas une dizaine, mais 41, qui se relayeront, je crois, tous les 3 km à peu près. Parmi ces lièvres, on va prendre la crème de la crème, comme des Lagat, mais aussi des Wanders, Ingebrigtsen, etc. Il n'y a qu'Eliud qui courra et qui tentera le record. À Monza, ils étaient 3. Ses chaussures ont 3 plaques de carbone contre une pour la première version. Et enfin, il y aura du public, parce que mine de rien, ça aide. Et avec ça, Eliud espère l'avoir, cette barre des 2 heures. Et vous commencez à le connaître, quand il a quelque chose en tête, il réussit souvent ce qu'il a prévu de faire.
Line. That's the view from Eliud Kipchoge. You can see the finish line where we are looming into view. 157 and approaching 158. I think we can say with some certainty
there
now
he
that he's going to do it. He's going
to
do it. He's
right
going.
There. He's telling him to move away.
Come on, he says. Come on, this is it. Shalena, final
this
thought from
incredible.
You.
This is incredible. Eliud's performance is such a gift to the world. His running is a gift to all of us. I feel so blessed to be here today. I feel like, I hope everyone can hear me smiling through this microphone right now. I cannot stop smiling.
500 meters to go. He has the Hauptallee to himself. All the pacemakers have let him go. As Ed said, he is sprinting into the history books here. They're cheering him on. 400 meters to go. Let's bring him home. This is history unfolding on the streets of Vienna this morning. It's a Saturday run like we've never seen before. Listen at the noise, the crowd getting right behind him. Goodness me, 300 meters to go. He can see the finish line here. Neil Armstrong we had on the moon in 1969. We had Roger Bannister, the 4-minute mile 65 years ago. Edmund Hillary, the first man to climb Everest in 1953. We have 1 minute to go. Eliud Kipchoge is on his way here.
It's not going to be a minute.
This humble farmer who used to run 2 miles to school every day and back. He used to go to the nearest town on his bike to sell milk at the local market. And now, through hard work and discipline, he's pointing. Come on, he says. Eliud Kipchoge has the hand of history on his shoulder. He has. Less than 200 meters to go. Eliud Kipchoge, let's keep an eye on the clock. Into the final 20 seconds. Eliud Kipchoge.
Whoa!
And on his shoulder. 140. 140, the unofficial time.
There's his wife.
Eliud Kipchoge storms into the history books in Vienna. 159.40, the unofficial time. The first man to run a marathon in under 2 hours. One final lung-busting stride for Kipchoge. One giant leap for human endeavor. And you know, Kipchoge was right. No human is limited. And now he can celebrate.
Putain de bordel de merde. 1h59 minutes et 40 secondes. Les frissons, quand les lièvres lui laissent la place pour atteindre la ligne d'arrivée. On croirait Aragorn, fils d'Arathorn, quand il va défoncer tous les orques en direction du Mordor. Il salue la foule pour les remercier d'être là, comme il le fait à chaque course. Un merci à gauche, un merci à droite, et bim, il traverse la ligne et va se réfugier dans les bras de sa femme. Je vous le disais au début de cet épisode, je ne savais pas du tout par où commencer pour vous raconter l'histoire du grand Eliud. Mais quand j'ai regardé à nouveau toute son histoire, tout m'est paru hyper clair. On commence par 8 temps sur 5000 mètres, où finalement, on gagne en 2003, mais ensuite, plus grand chose. On passe sur marathon, où on gagne tout. On finit, en devenant un extraterrestre et en devenant l'homme le plus rapide de tous les temps sur marathon. Simple, limpide, prévu, et surtout réussi. Eliud applique à la lettre, ce qui fait qu'on réussit à atteindre ses objectifs. Il en a justement des objectifs, mais aussi une vision à long terme, et en face de ça, il met une quantité de travail et une grosse dose de sacrifice pour les atteindre. Je pense que maintenant, on a compris pourquoi Eliud était beaucoup plus qu'un athlète. En fait, il a tout gagné sur la distance la plus propice à être connu. Niveau palmarès, pour faire un récap, champion du monde du 5000 mètres, de bronze olympique du 5000 mètres en 2004, vice-champion du monde du 5000 mètres en 2007, vice-champion olympique du 5000 mètres en 2008, champion olympique du marathon en 2016, 4 fois vainqueur du marathon de Londres et 3 fois vainqueur du marathon de Berlin, les marathons les plus réputés du monde, au total 11 victoires sur 13 marathons courus. Quand on court depuis presque 20 ans, on a plus de chances que son palmarès soit fourni. Mais quand même, là, c'est presque indécent. Et en plus de ça, il s'est confronté au meilleur de la distance. Car je crois pas en avoir parlé sur le marathon, mais presque à chaque fois, il y a soit Kenenisa Bekele, qui est aussi passé sur la distance, soit Wilson Kipsang, détenteur du record du monde pendant un certain temps, soit Denis Kimeto, également détenteur du record du monde. Et il y a même eu Mo Farah à un moment qui a complètement explosé. Tous les gars qui lui avaient mis une pilule sur piste n'ont jamais réussi à atteindre son niveau sur la distance reine de la course à pied. Et enfin, bien sûr, Eliud est passé. Au-delà d'un simple humain, il a cassé la barrière des 2 heures. Alors, moi aussi ce qui m'intéressait avec cette histoire, nous, communs des mortels, qu'est-ce qu'on peut retenir d'un gars comme Eliud Kipchoge? Première chose qui paraît évidente mais qu'il est toujours bon de rappeler, faites les choses que vous aimez. Eliud aime profondément la course à pied, c'est ce qu'il préfère dans la vie. On ne fait pas 18 ans de carrière à poncer les sols du monde entier sans kiffer ça au plus profond de soi-même. Il adore tout, la compétition bien sûr, mais aussi l'entraînement pour le marathon, ce qui fait une différence d'ailleurs avec Kenenisa Bekele qui lui déteste l'entraînement pour le marathon. On retient aussi que Eliud, quand il a quelque chose dans la tête, il ne faut pas en démordre. Eliud avait pour objectif d'être champion olympique, c'était son rêve le plus grand, mettre le Kenya en haut de l'affiche. Il ne l'a pas réussi en 2004 et en 2008 sur 5000 mètres. En 2012, il ne participe même pas au jeu, mais il revient en 2016 où il met tout le monde d'accord et il accomplit son rêve. On apprend d'Eliud que, sans sacrifice, on ne peut pas y arriver. La vie d'Eliud, c'est justement ça, du sacrifice. Et notamment, sa manière de vivre. Il vit en colocation dans une petite chambre de 9 mètres carrés environ. Rien à envier aux chambres de bonne parisienne. Cette chambre se trouve dans le camp d'entraînement de son équipe avec qui il s'entraîne, et il s'y trouve du lundi au samedi, et il ne rejoint sa femme et ses enfants que le samedi soir pour passer la journée avec eux le dimanche. Certains pourraient penser que c'est une vie à la con, mais lui, c'est ce qui lui permet d'atteindre ce qu'il s'est fixé comme objectif, et force est de constater qu'il y arrive plutôt bien. Et ce qui va avec le sacrifice, c'est la rigueur. Chez Eliud, c'est carré. Je ne sais pas si c'est le premier marathonien à travailler comme ça, je pense pas d'ailleurs. Mais cette histoire d'un marathon tous les 6 mois, je trouve ça hyper intéressant. Notamment cette première phase de test, où on voit qu'il cherche le parcours le plus propice au record, et quand il l'a trouvé, il n'en démord plus. Ça montre aussi, en quelque sorte, sa fidélité à un parcours, mais aussi à son équipe. Je vous avais touché un mot de Patrick Sang, qu'il avait détecté en 2001 lors d'une course du coin. Patrick et Eliud travaillent toujours ensemble, 20 ans après. Eliud a une vie bien tranquille finalement, un socle bien ancré, bien dur, qui lui permet à côté de prendre des risques et de s'éclater. Et enfin, ce que l'on apprend d'Eliud, et ça rejoint le premier point, c'est que quand on veut développer et faire connaître quelque chose, on peut y arriver. Eliud est un amoureux de la course à pied, mais il voudrait que ce sport soit reconnu par le monde entier pour comprendre à quel point il est exceptionnel. C'est aussi pour ça qu'il fait tout ça, pour ça qu'il essaye de casser des barrières soi-disant infranchissables. Il veut que la course à pied ait le même rayonnement que la Formule 1 par exemple, comme il dit, ou que d'autres sports. La prochaine échéance d'Eliud se passe dans quelques semaines à Sapporo, au nord du Japon, pour l'édition des JO. Mais avec le Covid et surtout son dernier marathon où il a terminé 8e, je suis extrêmement curieux de voir comment il va courir. Je parle du Covid car toutes les annulations de courses pendant cette année ont foutu la merde dans son calendrier hyper précis. Et c'est sûrement ce qui a fait qu'il n'a pas pu être avec les meilleurs lors du dernier marathon de Londres. Alors ils ont construit un autre marathon autour d'une piste d'aéroport qui était fait pour qu'il gagne, clairement. Donc on verra bien, en août prochain, ce qui se passera. En tout cas, son objectif est d'être double champion olympique. Et je pense qu'ensuite, Eliud aura réussi tout ce qu'il aura entrepris et il pourra peut-être lâcher un peu prise, sûrement, pour ensuite prendre un poste de développement de la course à pied. En tout cas, même s'il ne remporte pas les JO, je pense qu'on peut déjà l'affirmer. Eliud a Breaking Two. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'En route vers sur Eliud Kipchoge. Franchement, ça n'était pas évident de vous sortir un épisode en 15 jours sur une telle légende. Il y a tellement de choses à dire et j'espère que vous avez kiffé parce que moi, j'ai adoré retracer toutes les courses de cet immense champion. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi checker son état d'esprit, c'est fascinant. Vous l'avez peut-être vu, mais je repasse à un rythme d'un épisode tous les 15 jours. Ça me permet de prendre plus de temps pour faire des épisodes plus complets, mais aussi de travailler sur des prochains projets qui vont voir le jour. Et comme je vous le disais en intro, je vous tiens au courant concernant les lives pour les JO. D'ici là, pensez à checker l'Instagram de la route pour ne rien louper de l'aventure. Et vous pouvez aussi déjà télécharger Green Room, l'application de Spotify, et suivre la route. Comme ça, vous serez notifié quand je passerai en live. On se dit à dans 15 jours. D'ici là, faites gaffe à la chaleur, ne courez jamais sans casquette. Et bien sûr, tout dépend de vous.